Bonjour à toutes et à tous. Le Seigneur nous témoigne sa grâce alors que nous avons encore la possibilité cet après-midi de nous rassembler dans ses locaux. Il y a de nombreuses raisons de remercier Dieu et celle-ci en fait partie. Ne l'oublions pas. Je suis reconnaissant aussi envers l'équipe de louanges qui a pris le temps de nous conduire dans des chants qui préparent ce message. Et vous allez constater par vous-même le lien qui pourra être fait. Mais faisons d'abord un peu d'histoire. En 1833 est une année qui est marquante dans l'histoire de l'Angleterre, pour deux événements. 1833, c'est l'année où l'esclavage a été aboli dans tout l'Empire britannique. 1833, c'est aussi l'année de la mort de William Wilberforce. Et il y a un lien entre les deux. Savez-vous que ce William Wilberforce était chrétien et que Dieu l'a utilisé pour lutter contre l'esclavage? William Wilberforce était un homme éloquent qui a passé près de 40 années de sa vie à plaider en faveur de l'abolition de l'esclavage et qui a fini par gagner gain de cause l'année de sa mort. Quel combat! Alors bien sûr, il n'était pas seul dans ce combat de plaidoirie, mais l'histoire retient son nom, William Wilberforce. Et dans un tout autre contexte, et 3000 ans en arrière, Dieu a mis un terme à l'esclavage des Israélites en Égypte. Et ce n'est pas seulement avec des paroles, mais avec puissance, que Dieu a libéré son peuple de ses oppresseurs. C'est cet événement que nous appelons l'Exode, la sortie d'Égypte, sous la conduite d'un homme que Dieu a utilisé, Moïse. Dimanche dernier, nous avons vu en Genèse 12 que Dieu a appelé... Nous avons vu en Genèse 12 que Dieu a appelé Abraham à quitter son pays, à prendre un nouveau départ. Dieu lui a promis de le bénir, de lui donner une descendance et un nouveau pays. Et que s'est-il passé entre Genèse 12 et le texte d'aujourd'hui, en Exode 12? Eh bien, beaucoup de choses. Et surtout, plus de 400 ans d'histoire. Alors, il y a plusieurs noms à retenir entre la Genèse et l'Exode. D'abord, Isaac, le fils d'Abraham, et puis Jacob, le fils d'Isaac, et puis Joseph, l'un des 12 fils de Jacob. Et c'est à l'époque de Joseph que la famille de Jacob s'installe en Égypte pour fuir une situation dramatique à cette époque pour cette famille, la famine, pour pouvoir subsister. Et donc, ils se sont réfugiés en Égypte. Alors au début, la cohabitation avec les Égyptiens s'était plutôt bien déroulée. Mais très vite, les Hébreux sont devenus très nombreux, et même trop nombreux, en tout cas aux yeux du nouveau pharaon qui était en place. Et ce pharaon a décidé de réduire ce peuple qui cohabitait avec les Égyptiens, de réduire ce peuple en esclavage. C'est ce que nous lisons dans Exode 1. Et dans ce même contexte, il va jusqu'à demander à son propre peuple, aux Égyptiens, de noyer dans le Nil tout garçon nouveau-né parmi les Hébreux. Et c'est dans ce contexte dramatique que Moïse va naître. Moïse, que Dieu va préserver dans ce contexte où les enfants sont sacrifiés, sont jetés dans le Nil, Moïse va pouvoir être sauvé. Parce que Dieu lui accorde une mission particulière. Alors je pense que j'ai un souci avec la petite zapette, si on peut juste appuyer. Voilà. Dieu lui confie une mission, et cette mission, plusieurs d'entre vous, durant cette semaine, vous l'avez abordée en groupe de maison, en Exode 3. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob envoie Moïse libérer son peuple. Et entre Exode chapitre 3 et Exode chapitre 12, Dieu va manifester sa grandeur. Dieu va manifester son jugement contre le Pharaon qui a asservi les Hébreux et contre la nation égyptienne. Et nous avons ce refrain, « Laisse partir mon peuple ». C'est l'Éternel qui demande cela et c'est Moïse qui fait le porte-parole. « Laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple ». Et nous avons un Pharaon au cœur endurci qui refuse encore et encore de laisser partir ce peuple qui pourtant n'avait pas mérité d'être esclave. Et puis il y a cette succession de 9 malheurs qui viennent de Dieu, 9 fléaux qui s'abattent sur le pays d'Égypte, et puis le 10e qui est annoncé. Et nous sommes à ce moment-là, au moment où nous avons lu le texte en question. L'Exode est un événement fondateur dans l'histoire du peuple d'Israël. Dieu l'a fait sortir d'Égypte pour faire de lui son peuple et pour qu'il soit son Dieu. Et cet événement est tellement important que Dieu donne des instructions pour que les générations futures se souviennent de ce qu'il a fait. Et c'est à cette occasion que la fête de la Pâque et la semaine des pains sans levain sont instituées. Et quand je parle de la Pâque ici, il faut faire une distinction avec ce que nous appelons aujourd'hui Pâques et que nous allons célébrer au mois d'avril de cette année. Il y a une distinction entre Pâques sans S et puis Pâques avec S. La Pâque dont nous parlons dans le texte d'Exode 12, c'est la première version, Pâques sans S. Cette Pâque-là, en l'occurrence, célèbre ce que Dieu a fait quand il a fait sortir son peuple d'Égypte. La Pâque avec un S concerne la résurrection de Jésus, et c'est une autre fête. Et c'est dans ce contexte que nous pouvons dire, à partir de ce texte d'Exode 12, que Dieu sauve son peuple, le libère et lui demande de s'en souvenir. Dieu sauve son peuple, mais pas seulement en le libérant, mais il lui demande de s'en souvenir. Et nous allons voir en quoi cela nous concerne aussi. D'abord, voyons quand Dieu fait grâce. Au début du chapitre 12, que nous n'avons pas lu, Dieu donne des instructions à Moïse et à Aaron, Aaron étant le frère qui accompagne Moïse depuis le début de sa mission. Et ces instructions concernent ce que les Israélites devront faire au moment du 10e fléau qui est annoncé. Le 10e fléau, c'est la mort des premiers-nés dans le pays d'Égypte. Qu'est-ce que les Israélites doivent faire juste avant que ce fléau s'abatte sur l'Égypte? Eh bien, nous lisons dans les versets 21 à 27 l'essentiel des instructions que Moïse a reçues et qu'il communique à son tour aux responsables d'Israël. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Verset 21, ils doivent prendre dans le petit bétail un agneau, où les premiers versets du chapitre nous disent un agneau ou un chevreau, et qu'est-ce qu'ils doivent faire avec? Le sacrifier. Ça, c'est pour la caméra. Bonjour à ceux qui sont connectés. Il doit prendre donc dans le petit bétail un agneau et le sacrifier. Que faire ensuite? Verset 22, ils doivent peindre l'encadrement de la porte de leur maison avec le sang de l'animal. Et, détail qui se rapproche de notre réalité, ou plus ou moins, ils doivent rester confinés jusqu'au matin. Et puis, verset 23, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Que peuvent bien signifier cet animal sacrifié et ce sang sur la porte? Alors, il faut bien avouer que tout cela est bien éloigné de la culture de notre époque. Personne aujourd'hui n'imaginerait faire une telle chose, mettre du sang sur la porte de sa maison. Pourtant, ce que Dieu demande ici a une signification. Ce sang animal qui colore les maisons des Israélites est un signe de reconnaissance. Parce qu'au moment où Dieu frappera le pays d'Égypte de ce dernier fléau, la mort des premiers-nés, Eh bien, le texte, le verset 23, nous dit « Il passera par-dessus la porte. Il ne s'arrêtera pas pour faire mourir les premiers-nés des Israélites. Ils seront épargnés à cause de ce sang sur la porte. » Et soulignons que le mot « Pâque », « Pâque » sans « S », en hébreu, a la même racine que ce verbe « passer par-dessus ». C'est cela que signifie « Pâque ». Et dans chaque maison marquée par le sang, cela signifie qu'un animal a déjà été tué. Le sang en est la preuve. Et des instructions sont données pour la suite également. Le verset 24, et plus particulièrement aussi le verset 25, donc d'abord le verset 24, « Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. » À perpétuité signifiant « pour toujours, pour toutes les générations à venir ». Verset 25, « Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce rite pour vous, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. » Il s'agit pour le peuple d'Israël de commémorer par la suite cet événement, cette libération, ce salut qui vient de l'Éternel. Et une fois installés en terre promise, c'est-à-dire en terre de Canaan, ils devront continuer à pratiquer ce sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Et de cette manière, en faisant cela, ils transmettront à leurs enfants, aux générations futures, cette partie primordiale de leur histoire. Ils évoqueront ce jour-là, ils évoqueront ce jour où Dieu est intervenu en faveur d'Israël. Et nous lisons dans la suite du texte que le peuple suit ses instructions en attendant que s'abatte sur l'Égypte le jugement de Dieu. Et pour que ce peuple puisse suivre ses instructions, il fallait quand même un minimum de foi, croire qu'effectivement, en mettant du sang sur la porte, cela suffisait à être épargné. Et puis, il y a le verset 29. « Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. » Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y ait pas un mort. Je prends le temps de silence juste pour que nous puissions mesurer ce qui nous est raconté ici. Quelle nuit tragique pour les Égyptiens! Et en faisant mourir les premiers-nés, Dieu anéantit ce qui fait l'espoir et l'avenir des Égyptiens. Tout ce que les familles pouvaient mettre comme espoir dans le premier-né est anéanti. Et c'est un coup fatal qui est porté à la nation qui opprime le peuple de Dieu. Dieu exerce son jugement et sa sentence est juste. Combien même nous la trouvons terrible. Mais sa sentence est juste. Rappelons-nous encore qu'à cause de sa désobéissance et de sa révolte contre Dieu, l'homme meurt. L'homme mérite la mort parce qu'il s'est détourné de Dieu. La mort est la sanction du péché. Et quel être humain n'a pas péché ? Mais dans sa grâce, Dieu a prévu un moyen de substitution, un moyen de remplacement qui permet à l'homme d'être épargné de la sentence à condition qu'un animal meure à sa place. Dieu a prévu ce moyen de substitution. Et c'est ainsi que Dieu préserve ici son peuple du fléau, du jugement. Un jugement qui aurait dû s'abattre aussi sur les Israélites s'ils n'avaient pas sacrifié l'animal en question. Mais les Israélites avaient sacrifié un animal. Et pendant que des cris s'élèvent partout dans le pays d'Égypte, les Israélites consomment le repas de la Pâque. Ils mangent l'agneau qu'ils ont sacrifié. Et Dieu les a épargnés. Les Israélites n'étaient pas meilleurs. En tout cas, d'un point de vue, en tant que pécheurs, ils n'étaient pas meilleurs que les Égyptiens. Mais Dieu les a épargnés. C'est cela la grâce. Et la fête de la Pâque servira à s'en souvenir. Et bien sûr, cette fête va être célébrée de génération en génération. Alors, pas tout le temps dans l'histoire d'Israël, mais tout de même, lorsque nous faisons un bond dans le temps et que nous arrivons à l'époque de Jésus, cette fête également est célébrée. Jésus et ses disciples se retrouvent lors de ce repas parce que Jésus désirait fêter la Pâque. Et lors de ce repas qui se trouve être le dernier repas avant la mort de Jésus, le Seigneur institue de nouveaux éléments. Oui, la Pâque juive commémore la libération d'Israël de l'Égypte, mais quelque chose de plus grand est sur le point de se produire au moment où Jésus prend la Pâque avec ses disciples. Et je reviendrai tout à l'heure sur l'institution de la scène, ce que nous appelons la scène. En tout cas, le lien entre ce que nous avons dit sur la première Pâque et la mort de Jésus et qu'un sacrifice a eu lieu. Et c'est ainsi que la mort de Jésus sur une croix est interprétée. Ce n'est pas une simple exécution, et l'histoire romaine est pleine de ces crucifixions. Ils avaient l'habitude de faire ça. Mais la crucifixion de Jésus n'est pas une simple exécution. Ce qui est différent avec Jésus, c'est qu'il s'agit d'un sacrifice. Tout comme l'agneau sacrifié a pris la place de l'homme pécheur pour qu'il soit épargné au temps de Moïse, Jésus, celui qui est désigné par Jean-Baptiste, et nous l'avons même chanté, qui est désigné par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu, a pris la place des hommes et des femmes pécheurs pour qu'ils soient épargnés, pour qu'au jugement dernier, Dieu ne les condamne pas à être éternellement séparés de lui. Voilà ce qui s'est produit à la croix. Bien évidemment, cela nécessite que nous croyions en cela, que nous croyions que ce sacrifice est suffisant pour nous sauver. Alors que nous devrions tous être condamnés pour nos péchés, il existe un moyen d'être épargné. Et le récit que nous lisons aujourd'hui dans Exode 12 nous prépare à ce plus grand sacrifice, celui de Jésus pour nous. Cet événement qu'ont vécu les Israélites annonce déjà ce que Jésus va accomplir des siècles plus tard pour notre salut. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu, une grâce immense. C'est ainsi que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous aime tant qu'il a fait cela pour nous. Et comme l'a écrit l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. Si les Israélites, en entendant ce que Dieu allait faire, se sont inclinés, c'est ce que nous lisons au verset 27, combien nous devrions aussi nous incliner, le cœur plein de reconnaissance, devant notre Dieu qui n'a pas hésité à nous épargner en sacrifiant son Fils unique, Jésus-Christ. Mais contrairement aux animaux de l'Exode qui ont été définitivement mis à mort, Jésus, quant à lui, est ressuscité. Son sacrifice parfait, réalisé une fois pour toutes, a été validé par Dieu. Et en cela, il n'y a plus besoin de nouveaux sacrifices après celui de Jésus. Nous avons notre agneau pascal. Nous venons d'évoquer que quand Dieu fait grâce, l'homme qui fait confiance à Dieu obtient la vie. Et c'est ce qui s'est passé pour les Israélites du temps de Moïse. Alors, voyons à présent la suite de l'histoire. Plus précisément, quand Dieu libère de l'esclavage. Comme je l'avais dit dès le début, cette sortie d'Égypte est d'abord une libération de l'esclavage. Verset 31. « La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays, car ils se disaient, nous allons tous mourir. J'essaie de dramatiser un peu la chose pour que vous puissiez réellement comprendre ce qui est en train de se passer. Le pharaon finit par céder cette fois-ci. Il a refusé tant de fois. Mais cette fois-ci, il cède. Et il laisse vraiment, pour de vrai, il laisse vraiment les Israélites sortir du pays. À ce moment-là, personne ne cherchera à les retenir. Bien au contraire, les Égyptiens les poussent vers la sortie, comme on dit. Eux qui ont vu la mort de près, jusque dans leur maison, ils ont peur maintenant. Leurs dieux ne peuvent visiblement pas les protéger. Par contre, Dieu, l'Éternel, a protégé son peuple et le fait désormais sortir de ce pays. Cet exode n'est pas une fuite en cachette, mais plutôt un départ précipité. Même pas le temps de pouvoir lever la patte. Verset 34. Il faut même emporter les pétrins pour faire du pain sans levain. Et c'est en l'occurrence pour commémorer ce moment que les Israélites célèbrent la semaine des pains sans levain. Et ce n'est pas fini, ils emportent avec eux des objets en argent, en or et des vêtements donnés par les Égyptiens eux-mêmes. Et tout cela se passe bien, parce que Dieu est à l'œuvre. Et c'est ce que nous lisons au verset 36. « L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens, qui répondirent positivement à leur demande. » Dieu est à l'œuvre à ce moment-là. C'est Dieu qui agit encore dans le cœur des oppresseurs pour qu'ils donnent ces objets à leurs esclaves. Je ne sais pas si vous imaginez la situation. Des maîtres qui donnent de leurs biens à des esclaves. Mais c'est ce qui se passe. Et tout cela se déroule comme Dieu l'avait déjà annoncé. Et quand est-ce que Dieu l'a annoncé? Eh bien déjà des siècles auparavant. Nous revenons au livre de la Genèse. Dans Genèse 15, à l'ancêtre du peuple d'Israël, à Abraham, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera durant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et, c'est le détail qui nous intéresse, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu l'a annoncé des siècles plus tôt, déjà. Et un peu plus proche de cet événement, Dieu l'annonce également à Moïse au moment de son appel. Au verset 21 du chapitre 3, Dieu dit à Moïse, « Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple, et quand vous ne partirez pas les mains vides. » Cela est répété suffisamment de fois pour que nous puissions croire que c'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. Et quelle foule au moment du départ! Le texte nous dit 600 000 hommes, sans compter les enfants, verset 37. Et les spécialistes estiment qu'il pourrait être à ce stade 1 ou 2 millions de personnes dans ce peuple. Vous imaginez? Et sans compter non plus ceux qui profitent de cet exode pour partir également. Alors il y a des profiteurs et il y a peut-être ceux qui ont été convaincus qu'il fallait suivre, qu'il fallait sortir d'Égypte et suivre le Dieu d'Israël. Et de nouveau, au verset 39, l'auteur souligne que les Israélites sont vraiment partis dans la précipitation, chassés d'Égypte. C'est tout bonnement une expulsion. Et pourtant, les Israélites n'avaient rien fait de mal. Mais c'est Dieu qui a agi cette nuit-là, de telle sorte qu'aucun Israélite ne peut se vanter d'avoir contribué à la libération de son peuple. Dieu seul a agi. Aucun Israélite ne pourrait dire « C'est parce que j'ai fait preuve de courage que nous avons pu sortir d'Égypte. » Non, dans cette sortie d'Égypte, l'homme n'y est pour rien. Dieu seul a opéré cette libération. Et Moïse, qui est aussi l'auteur de notre texte, n'oublie pas de le préciser, notamment au verset 42. « Ce fut une nuit de veille pour l'Éternel lorsqu'il les fit sortir d'Égypte. » Le sujet du verbe ici, c'est Dieu, lorsqu'il les fit sortir d'Égypte. Elle sera une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites au fil des générations. Et nous avons ici l'indication que cette nuit doit rester mémorable et qu'elle doit rester en l'honneur de l'Éternel qui est le libérateur. Et remarquez que Moïse est à peine mentionné dans cette partie. Dieu est le seul véritable libérateur de son peuple. Et les Israélites, en sortant de l'Égypte, du pays où ils étaient esclaves, sont devenus ce jour-là libres. Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite à Abraham de libérer ses descendants de la nation qui les opprime. Dieu a ainsi libéré Israël pour qu'il soit son peuple. Et cette libération en annonce une autre, bien plus importante pour nous aujourd'hui. Avant de connaître le Seigneur, nous étions aussi esclaves. Non pas esclaves des hommes, mais du péché. Nous ne connaissions rien d'autre, notre vie tournait autour de nous, et la seule règle que nous suivions, c'était de faire ce que nous voulions. Et en cela, nous étions prisonniers de notre état de pécheur et même aveugles quant à notre condition. Nous ne nous rendions même pas compte que nous étions esclaves. Mais Jésus est intervenu. Jésus est intervenu pour nous libérer. Et de quelle manière l'a-t-il fait ? Eh bien, je vous propose de lire la réponse de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à Tite : « Il, c'est-à-dire Jésus, s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance, et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. » De nouveau, il est question ici du sacrifice de Jésus. Et quelles répercussions sur notre vie ? Jésus nous permet d'obtenir le pardon de Dieu, puisqu'il a subi la sanction que méritait nos péchés, nos fautes, c'est-à-dire la mort. Et Dieu ne nous tient donc plus rigueur pour nos fautes. Et en fait, comme Paul l'écrit aussi aux chrétiens de Rome, la personne que nous étions auparavant, c'est-à-dire esclave du péché, a été crucifiée avec Christ. De telle sorte que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça, c'était avant. C'était la vie d'avant. Désormais, nous vivons une vie nouvelle. Une vie où ce n'est pas le péché qui dicte sa loi, mais Dieu. Jésus nous libère afin que désormais, nous mettions notre zèle et notre énergie à accomplir des œuvres bonnes. Et tout comme Israël a été libéré de l'Égypte pour servir le Dieu qui l'a sauvé, nous avons été libérés du péché pour servir le Dieu qui nous a sauvés. Tout comme les Israélites n'y sont pour rien dans leur libération, nous n'avons rien fait non plus pour notre libération. Tout revient à notre Seigneur. C'est le Seigneur qui a absolument tout fait. Et même si le péché fait toujours partie de notre expérience humaine, nous savons que notre libération sera totale quand Jésus reviendra, quand le mal aura disparu. C'est notre espérance. Mais déjà aujourd'hui, et comme nous l'avons chanté au tout début de ce culte, nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous sommes libres. Nous avons vu jusque-là deux aspects de l'intervention de Dieu au moment de l'Exode. Quand il a fait grâce, laissant la vie sauve à son peuple, et quand il le libère de l'esclavage. Nous avons vu aussi que l'œuvre de Jésus a les mêmes effets sur nous, une vie graciée et une vie libérée du péché. Alors il nous reste à souligner juste un élément, si vous me le permettez. Le texte d'aujourd'hui présente la particularité de mêler des instructions au récit de l'Exode. À la fois, il y a des instructions et en même temps, on nous raconte comment s'est passé l'Exode. Et c'est bien ce que nous avons remarqué. Dieu donne des instructions à Moïse qui les transmet au peuple. Et nous savons que les Juifs d'aujourd'hui fêtent encore la Pâque. Ce qui n'est pas notre cas. Nous ne fêtons pas cette Pâque juive. Cet événement de la sortie d'Égypte fait partie de l'histoire passée d'Israël. Mais depuis, comme nous le montrent les auteurs du Nouveau Testament, depuis, un nouvel exode a eu lieu avec la mort et la résurrection de Jésus. Alors c'est vrai, nous fêtons Pâques pour célébrer la résurrection de Jésus. Et dans moins de 3 mois, nous aurons l'occasion de le fêter. Mais ce qui est plus proche de la Pâque juive et qui nous rappelle le sacrifice de l'agneau de Dieu et notre libération du péché, ce n'est pas tant une fête dans le calendrier, c'est un repas. Et je veux bien évidemment parler de la scène. C'est cela qui se rapproche de la Pâque juive. Dans ce texte, il y a de toute évidence l'idée selon laquelle l'Exode ne doit pas rester seulement une histoire à raconter. Il y a bien plus le devoir de se souvenir. De se souvenir de ce que Dieu a accompli pour son peuple. De célébrer Dieu pour sa délivrance. Et regardez avec moi seulement la structure de ce chapitre que j'ai pris dans son ensemble. Simplement pour vous montrer qu'il me semble que c'est l'intention de l'auteur. Vous avez en bleu toutes les instructions qui concernent la situation présente. Au moment où Moïse est en train de vivre, la veille de l'Exode. Les instructions que Dieu donne à Moïse et à Aaron pour qu'ils puissent les transmettre au peuple. Et puis, les versets 27 à 41 désignent les événements qui ont lieu au moment de l'Exode. Mais tout ce qui est en vert, tous les autres versets concernent des instructions pour l'avenir, pour se souvenir de ce que Dieu a fait. Et il me semble que cette alternance nous montre l'importance d'insister sur le souvenir que nous devons avoir aussi concernant ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons tantôt des instructions pour le jour même où Dieu libère son peuple, et tantôt des instructions pour l'avenir, notamment une fois que le peuple sera installé en terre promise. Dois-je vous rappeler que nous sommes des êtres oublieux ? Il y a tant de distractions dans ce monde aujourd'hui qu'il est facile d'oublier l'essentiel. Très facile. Les médias, la surcharge de travail, les écrans, et Eliane tout à l'heure en a parlé, occupent facilement nos pensées. Nous avons besoin de rites pour rappeler les événements du passé. Et tout spécialement de ce que Dieu a fait pour nous sauver. Et c'est en cela que le Seigneur Jésus a institué la scène pour que jusqu'à notre époque, à travers 2000 ans d'histoire, jusqu'à notre époque, nous nous souvenions encore de ce qu'il a accompli pour nous. S'il n'y avait pas eu de transmission, si on n'avait pas gardé la mémoire de ce que Jésus a fait, aujourd'hui nous ne serions pas là. Le pain que nous prenons ici, dans cette église, une fois par mois, symbolise son corps, qui a été marqué par les coups et par les clous, et finalement livré à la mort. Le vin, ou plus précisément ici le jus de raisin que nous prenons, symbolise son sang versé, qui n'est pas à mettre sur les portes, mais qui est suffisant pour que nous ayons la vie. Et j'ouvre une parenthèse, en précisant que lorsque nous parlons du sang de Jésus, et nous l'avons également chanté plusieurs fois. Lorsque nous parlons du sang de Jésus, il n'y a rien de magique dans ce sang. Ce sang n'a pas un pouvoir magique. Ce que nous désignons par le sang de Jésus, c'est d'abord sa mort. Sa mort a de la valeur. Et le sang versé est la preuve que Jésus est bien mort pour nous. Il n'a pas juste été blessé. C'est pour cela que nous ne devons pas nous concentrer sur le sang en tant que tel, mais sur sa mort. Et le sang nous permet de renvoyer à cette réalité. Si le sang a été versé, c'est qu'il y a eu une mort. Aujourd'hui, quand notre sang est répandu, il n'y a pas forcément la mort. Mais concernant Jésus, c'est ce que cela signifie. Et lorsque nous chantons le sang de Jésus, nous faisons référence à sa mort. Je ferme la parenthèse. Nous ne prenons donc pas le repas de la Pâque juive parce qu'un nouveau repas a été institué. Et ainsi, à chaque fois que nous prenons les éléments de la scène que sont le pain et la coupe, nous nous souvenons du sacrifice de Jésus qui s'est livré pour nous. Et nous le faisons, et si vous vous souvenez de la formule, nous le faisons en souvenir de lui. Christ est notre Pâque. Et la scène nous rappelle comment Dieu nous a fait grâce et comment il nous libère de l'esclavage du péché. Et je laisse à votre réflexion deux questions qui seront à discuter, peut-être lors d'un prochain conseil de l'Église. La première question concerne, est-ce qu'à notre époque, avec tout ce que j'ai dit précédemment, toutes les distractions, est-ce que prendre la scène une fois par mois est suffisant pour nous souvenir du sacrifice de Jésus? Je pose la question, c'est une question ouverte qui mérite réflexion de notre part. Est-ce que prendre la scène seulement une fois par mois à notre époque est pertinent? Deuxième question, parce que le texte parle des enfants dans Exode 12. Que penser de la présence des enfants lors de la scène, non pas pour y participer, mais simplement pour regarder? Au moins une fois par an, si ce n'est plus souvent. Cela fait partie, il me semble, de ce que nous devons transmettre aux enfants. Qu'ils puissent être présents lors de la scène, ne pas juste penser que c'est un repas entre adultes. Je vous laisse ces deux questions pour y réfléchir sérieusement et également que nous puissions y trouver une réponse concrète, une application concrète pour notre Église. Dans ces deux questions, il n'y a pas de loi ou d'instruction expresse de la part du Seigneur. Et ce que je vous soumets ici, il n'y a pas de commandement derrière. Simplement, ce sont des pistes de réflexion qui mettent un peu plus en avant ou un peu plus en valeur la scène. Ce repas qui nous rappelle à chaque fois comment Dieu nous a fait grâce, comment Christ nous a libérés. Nous avons évoqué aujourd'hui trois récits de libération. Le premier concernait l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique grâce à l'effort soutenu par Dieu de William Wilberforce. Le deuxième est ce que Dieu a accompli dans l'histoire d'Israël en libérant son peuple du joug égyptien. Et le troisième, qui a des effets jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que Christ a accompli. Par sa mort et sa résurrection, Christ libère des hommes et des femmes qui étaient esclaves du péché. Les chrétiens sont véritablement libres. Et si tu n'as pas encore expérimenté cette liberté, c'est vers Dieu qu'il te faut te tourner. Regarde ce qu'il a fait en Égypte pour épargner et pour libérer son peuple. Regarde ce qu'il a fait pour que tu sois épargné et libéré du péché. Si tu acceptes effectivement que Dieu a fait cela pour toi. Comme les Israélites qui ont vécu avant Jésus-Christ, nous avons notre Pâque qui est liée à la délivrance que Dieu a opérée en notre faveur. Dans sa grâce, il nous a libérés. Il nous a fait sortir de ce qui est maintenant notre ancienne vie pour que nous le suivions dans une vie où le péché ne domine plus. Dieu nous a rendus libres pour que nous lui appartenions, pour que nous soyons son peuple et qu'il soit notre Dieu. Et il veut que nous puissions nous en souvenir à chaque fois que nous prenons le repas qu'il a institué, la scène. Et tout cela est l'œuvre de sa grâce, l'accomplissement de son plan parfait pour des êtres imparfaits. Quel grand Dieu nous avons, n'est-ce pas ? Prions ensemble. Nous avons de faibles mots pour décrire combien tu es grand. Mais pourtant, ta grâce est immense et tu l'as déployée avec une telle force et une telle puissance lorsque nous regardons à la croix. Oui, Seigneur, tu as bien voulu nous épargner alors que nous méritions d'être condamnés. Et combien nous sommes reconnaissants pour cela, Seigneur, de ce que tu nous as épargnés, de ce que tu as bien voulu sacrifier ton propre Fils, Jésus-Christ, entièrement Dieu, entièrement homme, qui a payé à notre place et qui nous a rendus libres. Nous sommes désormais libres, Seigneur, et nous voulons te remercier pour cette liberté que tu nous as accordée. Une telle liberté que, oui, nous te reconnaissons comme maître désormais, et le péché n'est plus notre maître. Nous n'avons plus à rendre de compte à notre vie ancienne, mais désormais tu nous as donné cette vie nouvelle que nous sommes déjà en train de vivre, et combien nous sommes reconnaissants pour cela. Et merci, Seigneur, de nous avoir donné la scène pour pouvoir nous souvenir de tout cela. Pour encore une fois te remercier pour cet acte de libération qui sera total lorsque Jésus reviendra. C'est notre espérance que nous soyons entièrement, totalement libérés du péché, que nous ne soyons plus dans la capacité de pécher contre toi. Oui, nous attendons ce jour, Seigneur, mais qu'en attendant, Seigneur, tu nous accordes la force de te suivre tout au long du chemin, de te rester fidèle, en étant convaincu que tu agis en nous par ton esprit et que tu permettras que nous arrivions à ce jour-là précisément où nous serons entièrement libérés. Nous te rendons gloire et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen.